Vous écoutez RTL.
Passez une très belle journée à l'écoute d'RTL. Il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Isabelle Adjani multiplie lectures, événements en France. Après Avignon cet été, l'actrice sera ce week-end dans la ville de Pau. Monique Younes l'a rencontrée en exclusivité. Ses confidences dans un instant au micro RTL. Étienne Daho est de retour. Il publiera un nouvel album cet automne. Il nous présentera le premier extrait, Les flocons de l'été, au micro de Stephen Bellery. On retrouvera bien entendu nos express du jour livrés par Olivia Leray. Et puis côté télévision, c'est la rentrée de Laurent Ruquier avec demain soir On n'est pas couché, les débuts de Christine Angot aux côtés de Yann Moix et avec les enfants de la télé. Nouveau programme du dimanche après-midi de France 2. On retrouvera Laurent Ruquier au micro d'Isabelle Morini-Boss.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Mais avant tout, c'est l'événement musical qui fait le plus parler en cette rentrée. Stephen Bellery, bonjour.
Bonjour à tous.
MC Solar est de retour et il a choisi RTL pour présenter le premier extrait de son nouvel album.
Ce sera son 8e disque. Il s'appellera Géopoétique. Sortie prévue le 3 novembre. Le premier single s'intitule Sonotone. Un morceau ultra efficace, résolument contemporain, au texte ciselé. MC Solar présente pour RTL sa première chanson inédite en 10 ans.
Alors Sonotone, c'est un titre qui raconte quelqu'un qui vieillit et qui a envie de retrouver l'élixir de jouvence et la jeunesse. Les 4 premières phrases, je les ai écrites il y a 10 ans. Je fais toujours un morceau sur le temps qui passe, que ça s'appelle obsolète ou que ça s'appelle carpe diem. Et puis là, j'ai trouvé quelque chose de différent. La chrysalide et le papillon, quoi. Il y a 3 actes. La personne vieillit. Plus la chanson avance, plus le flow est dynamique. Puis à un moment donné, c'est la résurrection.
J'ai des rides et des poches sous les yeux, les cheveux poivre et sel et de l'arthrose m'en veut. À chaque check-up, ça ne va pas mieux. J'ai la carte vermeille et la retraite, je suis vieux. Les blouses blanches, analyse ma pisse, teste ma prostate, me parle d'hospice. Les gosses dans le bus me cèdent leur place. Et quand je me casse, ils parlent en verlan, style te malieux. Si les mots sont pioches, c'est ma tombe qu'ils creusent. Mais je dois rester droit malgré mon dos. Ma scoliose et salaud de l'imbago, j'étais une sommité. La qualité, j'ai bien travaillé, j'étais respecté. De juvénile après retraité, je n'ai pas profité, ma vie j'ai raté. Maintenant quoi, tu veux que je fasse du jogging, attraper les années avec du bodybuilding, mettre de l'antiride à la graisse porcine, passe clean avec peeling et lifting, ça sonne faux. Je veux le feu, la forme, déformer le monde monotone et morne. Comme chaque printemps me pousse vers l'automne, vers le sonotone, 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 vers le sonotone.
Ça sonne déjà comme un tube. Depuis une décennie, on ne voyait MC Solar qu'aux enfoirés. Il a beaucoup voyagé et profité de ses enfants. Genèse d'un comeback.
Qu'est-ce que j'ai fait pendant 10 ans? Bon, je crois que j'ai vécu la vie normale, c'est-à-dire d'aller voir des musées, d'aller voir des amis en studio, de prendre du recul. J'en ai pris peut-être un peu beaucoup. Oui, j'ai revécu une vie un peu plus lambda, moins stressante, moins trépidante. Et ben, vivre autre chose, ça permet de se renouveler, d'être un peu différent. Puis on se rend compte aussi, dans cette absence, que c'est un super truc. Il a fallu comment on appelle ça, un manque pour se dire que j'ai bien choisi ma voie. Je pars du principe que nul n'est indispensable. Donc on me l'a dit une fois, deux fois, 10 fois, 80 fois, 100 fois, 110 fois. Et puis un jour du mois de juin d'à peu près l'année dernière, j'ai dit allez, c'est bon, il faut y aller. Parce que si les gens disent ça, c'est qu'ils n'ont pas tort. Ça m'a remotivé. Je prends le stylo que quand j'ai un objectif. Je vis des choses, j'accumule dans ma tête. J'essaie de faire en sorte que la frustration crée, comment on appelle ça, l'arsenic. Pas d'angoisse du tout. Ça va vite. Et c'est la preuve que ça me manquait. C'est encore faisable, facile, rigolo. Je réentends ma voix, je suis ah zut, elle est bien ma voix. Je crois que ça s'oublie pas.
Mon œuvre, résurrection, autour de l'érection de l'action. Quand avant c'était fiction, retour de la libido. Des nuits brèves, des alibis bidons pour réécrire le rêve. Elle, belle.
Sonotone, formidable premier extrait de Géopoétique, le nouvel album de MC Solar sort le 3 novembre. Mon petit doigt me dit qu'on en reparlera.
Et on se retrouve dans quelques instants, Stephen, avec Étienne Daho. Monique Younes, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez rencontré Isabelle Adjani qui ouvre la saison du Théâtre de Pau demain samedi par une lecture de texte de ses auteurs préférés. L'événement a pour titre Le musée imaginaire d'Isabelle Adjani. Alors parlez-nous d'Isabelle, Monique, comment va-t-elle?
Différemment, elle n'est plus tout à fait la même, ni tout à fait une autre, une mutation. C'est comme si avec l'âge, avec cette cure d'amaigrissement spectaculaire, elle apparaissait ou réapparaissait telle qu'en elle-même, intelligente et loufoque, dramatique et légère, intense et émouvante, fragile et inébranlable, bref, talentueuse. Elle a des projets grandioses avec d'importants metteurs en scène européens, mais ses secrets, il ne faut rien dire. En attendant, elle monte sur scène pour lire des textes partout en France. La première fois, c'était le 30 janvier dernier, au Théâtre de l'Odéon à Paris, dans le cadre de la soirée hommage rendue à Georges Lavaudan. Isabelle Adjani lisait des textes de Marguerite Duras.
Je ne pouvais pas imaginer un public aussi attentif. On n'était pas là pour jouer, on était là pour faire entendre de l'écriture. Et ça a été comme une révélation pour moi. Je ne connaissais pas ça, sauf à travers certains acteurs comédiens qui se produisent brillamment, comme Lucchini, où il y a une forme d'entertainment, enfin, quelque chose comme ça, pour distraire, emporter, dynamiser, faire pulser. Et là, il s'agit d'autre chose, c'est juste faire exister l'intensité de leur écoute à travers l'intensité de notre présence. Et ce moment absolument privilégié m'a été révélé. Moi, j'ai toujours dit que j'avais des racines volantes parce que j'ai des origines qui me rendent nomade avec des parents immigrés à la fois du Nord et du Sud. Et il y a quelque chose d'ancré dans le texte. Et en même temps, vous ne touchez pas le sol. C'est magnifique à ressentir. Ne touchez plus tard, je ne touche plus tard.
Voilà, et cet été à Avignon, quand Isabelle Adjani a renouvelé l'expérience avec Michel Escaut dans le jardin du musée Calvé, les spectateurs étaient bouleversés, autant par le bonheur d'avoir retrouvé leur actrice que de réentendre ces textes sublimes. Et à Pau, demain, elle sera mise en scène comme d'habitude par son amie Valérie Six, mais comme elle a l'habitude de dire, elle entre seule dans ses textes. Elle ne répète pas beaucoup Isabelle Adjani, de telle sorte que la proximité avec la public est absolue, presque périlleuse.
Pour moi, la fragilité, c'est une forme de délicatesse. Elle doit être là. Mais il faut aussi de la force pour se maintenir dans la fragilité. Moi, j'ai besoin, quand je vois des acteurs, des actrices au travail, de ressentir, même si ce n'est pas en premier plan, la fêlure qui traverse le travail qu'ils ont fait sur le personnage, donc leur fêlure aussi. C'est j'ai besoin d'être parfois en apnée aussi, de me dire, mais est-ce qu'il va pouvoir traverser cette scène sans s'effondrer ou sans... J'aime pas les choses en force, j'aime les choses fortes, mais pas en force. Parce que j'entends plus rien en tant que spectatrice, j'entends plus rien. Et je pense que pour être entendue, la fragilité même d'un texte doit toujours être affleurée, comme chez une cantatrice. Aussi puissante que soient ses cordes vocales, aussi puissante que soit sa voix, il faut que quelque chose vous fasse un peu peur qu'elle se brise.
Alors c'est donc Isabelle Adjani le retour.
Quelque chose comme ça, et le plus inattendu étant de l'entendre dire que le métier en ce moment la rend heureuse. Elle ne veut plus passer à côté de grands metteurs en scène qui la courtisent, comme Ivo Vanov par exemple, qui a mis en scène Les Damnés à la Comédie Française, de grands professionnels comme l'était Patrick Chéreau ou Luc Bondy, avec qui elle regrette aujourd'hui de ne pas avoir assez travaillé.
Ça, ce sont pour moi deux pertes inconsolables, Patrick Chéreau et Luc Bondy. Patrice Chéreau avait dit à des amis, Isabelle, il faut que je la mette au théâtre, il faut que je la remette au théâtre. Quelque chose de très volontaire et de très, 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 très déterminé. Ça a failli se faire, ça ne s'est pas fait, ça m'a attristée. Et le projet qu'on, aussi d'être sur scène, dirigé par Luc Bondy, qu'on avait depuis longtemps, qui s'est aussi arrêté brutalement. Alors voilà, qu'ils partent l'un et l'autre, que je les perde pour que je m'y retrouve au théâtre.
Mais dites-moi, Monique, il n'était pas question que Isabelle Adjani retourne à la Comédie Française, qu'il a révélé, on le rappelle, à 17 ans, d'Ondine.
Bien sûr, elle ne s'interdit plus rien, elle aime le travail de troupe. Une chose est sûre, c'est que le théâtre ne la quittera jamais. C'est comme si elle venait de découvrir qu'elle ne serait heureuse qu'en se mettant au service des œuvres et des textes. Et peut-être, au service de son fils, Gabriel Kane, qui est auteur, compositeur, et qui met aujourd'hui même sur les plateformes de streaming son cinquième titre, Lie to Me.
J'aime son écriture, c'est une musique très actuelle.
Il vous l'a fait écouter avant ?
Ça dépend. C'est un artiste, donc quand il en a envie, oui. Quand il a le souhait d'avoir mon opinion, oui. C'est un titre que j'aime bien, beaucoup même.
Lie to me, chante le fils d'Isabelle Adjani, qui ne ment plus. Si vous êtes donc à Pau, ou si vous avez un hélicoptère pour vous y rendre, qui sait, allez la voir au Théâtre Saint-Louis, demain à 19h, dans ce fief de Marguerite de Navarre, la reine Margot.
Ah, oui.
Elle vous fera entendre des textes de Marguerite Duras, d'Emily Dickinson, de Camille Laurence, et aussi des textes de Patrice Chéreau, qu'il avait écrit en préparation de son film La reine Margot. Vous vérifierez l'adage selon lequel, avec le talent, il ne fait pas mal de se souvenir.
Merci pour cette rencontre exceptionnelle avec Isabelle Adjani. Monique Younès, dans quelques instants, nous parlons télévision, nous parlons audience et programme. Ce sera bien entendu avec Isabelle Morini-Bosque. Passez une très bonne journée à l'écoute d'RTL.
RTL, Yves Calvi, 9h10.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
Nous allons donc faire un point sur nos audiences de la veille avec Médiamétrie, audience télévisée.
Ça vous surprend si je vous dis que le football rafle tout? Le match France-Pays-Bas sur TF1, 7 700 000 téléspectateurs, largement plus d'un téléspectateur masculin sur deux et 32% du public global. Mais en deuxième position, le grand blond avec une chaussure noire sur France 3. 3 millions de téléspectateurs après plus de 10 rediffusions. Évidemment, c'est un joli score et c'est un très beau film. Enfin, j'adore ce film. Et en troisième position, absolument. Et le document qui suivait, la rediffusion du Divan, c'était très bien. Et M6, ensuite, Recherche Maison Appartement, à peu près 2 500 000 téléspectateurs et 10% du public côté TNT. C'est Cold Case Saint-Polar qui rafle 750 000 personnes sur France 4. C'est un joli score.
On en vient maintenant à nos soirées du week-end. On signale la reprise sur la 2 des Petits Meurtres d'Agatha Christie ce soir. Vous adorez toujours. Hein. Mais on en reparlera vendredi prochain parce qu'aujourd'hui, il y a la reprise de Koh-Lanta sur TF1. Or, j'ai l'impression qu'on sort d'en prendre.
Ah, vous aussi, hein, c'est dingue. Hein. Alors, cette 18e saison est pourtant la seconde session, simplement, de 2017, puisqu'il y en a officiellement deux par année, avec d'ailleurs la suppression de la troisième équipe des Bleus créée au printemps. Mais comme chaque fois, ça dure quasiment 3 mois, le temps se réduit tellement entre les fins et les redébuts qu'on a effectivement le sentiment d'un mouvement perpétuel.
Voilà,
effectivement.
Exactement.
Je l'avais fait remarquer à Denis Brogniard en juillet. Pff, il l'avait moyennement aimé.
Ah non, Isabelle, non, comment vous y allez? En termes d'audience, en tout cas, on s'en porte pas plus mal, puisqu'on a même grappillé quelques points et on est à 300 000 téléspectateurs de moyenne. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chaînes qui seraient d'accord pour faire ces scores-là.
Et la bonne idée, c'est d'avoir renoncé au bleu?
Je sais pas si c'est la bonne idée. La bonne idée, c'est de chaque année garder le concept de base de Koh-Lanta, mais de saupoudrer de quelques nouveautés qui permettent d'abord aux candidats d'être surpris et ensuite aux téléspectateurs de vivre ça au centuple. Je dirais pas, en tout cas, que le fait que les Bleus n'existent pas soit une bonne idée. Les trois équipes, c'était une des forces de l'année dernière. Comme toute nouveauté, elle est éphémère. Elle reviendra peut-être un jour, mais pas cette année.
Et parmi les nouveautés, multiplication des contacts entre les deux équipes. Et deux équipes qui opposent d'ailleurs les jeunes aux vieux, mais reconnaît pas Steven, parce que les vieux en télé, ça commence à 30 ans. Donc vous-même, vous n'avez plus beaucoup de rab. Hein.
Bon, ça y est, vous avez réglé vos comptes.
J'ai rien dit en plus.
Mais je vous là, la meilleure défense, c'est l'attaque.
L'autre homme du week-end, c'est Laurent Ruquier qui fait doublement l'actualité cette semaine.
Triplement, si on considère le formidable redémarrage en fanfare des grosses têtes. Mais vous avez raison, côté télé, c'est la reprise à 23h10, demain, sur la 2 de On n'est pas couché, le grand magazine de débat de la chaîne, voire du groupe, avec une nouvelle chroniqueuse, l'écrivain Christine Angot, qui a la nuance que les anges de l'énergie douce sont à la grammaire, franchement. Alors, soyons francs. Est-ce que ça lui plaît à Laurent Ruquier qu'elle divise tellement que beaucoup vont regarder en espérant franchement qu'elle se plante?
Non, certains adorent Christine Angot, elle a de nombreux admirateurs, d'autres pas, c'est comme ça pour qui que ce soit. Je pense que t'as des gens qui supportent pas Isabelle Morini-Bosque, puis d'autres qui l'adorent. On est tous ainsi faits. Le choix de Christine Angot s'est fait assez naturellement. Je sais même pas qui le premier a dit le nom. C'était comme une évidence. On était moins certains, en revanche, que Christine Angot accepterait. Manifestement, ça avait l'air de l'intéresser, de l'amuser même. Cette possibilité pour une écrivain de venir dans une émission populaire, de pouvoir émettre des opinions culturelles, littéraires, et aussi politique, c'est pas offert à tout le monde. J'ai senti dès mon premier appel téléphonique qu'elle avait envie de dire oui. Deux écrivains dans une émission comme celle-là, c'est quand même une jolie marque, un joli signe que donne et France 2 et On n'est pas couché.
Alors dans On n'est pas couché, en revanche, aucun chroniqueur politique issu d'un gouvernement passé. À ce propos, je m'étais laissé dire que Jean-Pierre Raffarin, désormais chez Laurent Delahousse dès dimanche prochain, eh ben Laurent Ruquier, ça le laissait, comment dire, perplexe, non?
Ben non, mais c'est pas mon sujet quand même. Dans On n'est pas couché, on a toujours fait différent. Donc c'est très bien d'avoir deux écrivains. On les reçoit, les politiques. J'imagine mal un politique accepter que Najat Vallaud-Belkacem lui dise « Ah bah dis donc, un débat ». Oui, mais pas des politiques que je vais prendre comme chroniqueur. Je pense que chez Laurent Delahousse, ce sera d'ailleurs essentiellement des débats, j'imagine. Ce week-end, tout le monde ne sera pas rentré. On fera pas, à mon avis, un très bon score. Je le dis pour ceux qui vont dès dimanche commenter nos premiers résultats. Attendez 3 ou 4 semaines, parce que c'est comme ça, il faut attendre que tous les téléspectateurs soient rentrés pour faire une 12e saison. C'est assez rare en télévision, il faut quand même le rappeler. En plus, on est dans une année hors élection, ça fait du bien aussi. On va être heureux et donc pourquoi pas une 13e saison après.
Ah bah, je lui souhaite. Entre autres invités demain, Mathieu Amalric, Nolwenn Leroy, qui a très peur, et le ministre de l'Éducation. Mais Laurent Ruquier a une autre actualité qui, moi, me touche beaucoup. Le retour des enfants de la télé le lendemain, dimanche, à 14h20. Ah oui, 14h20 tout de même.
Pourquoi quand même ?
Je l'aurais mieux vu en fin d'après-midi, mais France 2 ne m'a pas demandé mon avis.
Pas le mien non plus.
Voilà. L'émission pourrait créer la surprise, et Dieu sait que Laurent Ruquier est légitime, parce que l'enfant de la télé, bah, c'est lui.
Je suis même arrivé chez mes parents en même temps que la télé. En 63, mes parents ont acheté un téléviseur et je suis né. Vous voyez, vraiment, je ne peux pas être plus un enfant de la télé. On aura un œil quand même sur ce qui se passe sur ce qu'on appelle aujourd'hui le troisième écran, enfin les ordinateurs, les tablettes. Moi, si j'ai été candidat à la présentation, c'est évidemment parce que j'espère que j'avais les compétences. Il fallait quelqu'un capable de vous dire que la fille qui présentait les premiers résultats du loto s'appelait Annie Poirel. Sur les années 60, 70, 80, voire même 90, je suis assez incollable. On essaiera de suivre de temps en temps aussi l'actualité de la semaine, mais on va évidemment continuer à s'intéresser aux archives, aux casseroles de ceux qui auront la gentillesse de venir nous voir, comme par exemple Vianney. C'est super de démarrer avec Vianney, Chantal Latsou, mais aussi le garçon du Palmachot.
Ben moi, je serai devant, même si je continue à penser que 14h20, c'est pas le meilleur horaire qui soit.
On se retrouve dans un instant, Isabelle, avec Olivia pour ses express, au menu entre autres Florent Pagny, et puis Monsieur Bellery qui est revenu avec Étienne Dao sous le bras.
RTL, on va regarder ça.
J'ai le gros.
Ah oui, on voit quelque chose. RTL, 9h18.
Pas bien gros, Dao, quand même.
C'est vrai.
Mais je suis pas très fort, quand même.
Qu'est-ce qu'il chante bien.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30. Les Express LVT.
Des Express qui nous sont bien entendu livrés par Olivia Leray. Bonjour Olivia.
Bonjour à tous.
Florent Pagny sera donc de retour le 22 septembre dans les bacs.
Pour son 14e album intitulé Le Présent d'abord. La date n'a pas été choisie au hasard. Ce sera le lendemain du coup d'envoi de sa nouvelle tournée. La chanson éponyme avait été dévoilée avant l'été. Un titre très moderne. Eh bien, Florent Pagny propose un nouvel extrait ce matin. Le morceau plus classique s'appelle La beauté du doute.
Ne me demande pas où se trouve le droit chemin. Personne ne connaît sa route. Et c'est la beauté du doute. Si tu perds un combat, donne à ta vie d'autres chances. Personne ne connaît d'avance tous les parfums que l'on goûte. Et c'est la beauté du doute. Où vont nos prières? Où finit le ciel? Qui écoute nos déroutes quand nos voix se mêlent? On chante une mélodie fragile. On avance perdu dans la file. Le passé nous suit, on le voit de loin. Bien caché, est-ce qu'il sait ce qu'il y a demain? Il nous faut renoncer parfois pour trouver le meilleur en soi.
Florent Pagny, La beauté du doute, c'est le 14e album. Le présent d'abord dans les bacs le 22 septembre.
Et 80 ans après sa mort, Maurice Ravel a son festival. Et il ouvre ce soir chez lui, sur la Côte Basque. Le programme à Saint-Jean-de-Luz ou encore à Bayonne. Concert, masterclass et jeunes virtuoses pendant 3 semaines. N'hésitez pas à aller y faire un tour si vous êtes dans le coin. Ouais,
lundi, le journal de 20h de France 2 aura donc un nouveau visage en la personne d'Anne-Sophie Lapix.
Elle investit un tout nouveau plateau de 300 mètres carrés. Dès hier, la patronne de France Télévisions, Delphine Ernotte, a tenu à lui adresser un conseil et un petit message de soutien.
On est tous derrière Anne-Sophie Lapix, toute la rédaction, toutes les techniciens. Vous savez qu'elle va investir en plus un nouveau plateau. Donc on est tous ensemble avec elle. Comme je sais que c'est une très grande pro, j'imagine qu'elle doit avoir un peu des petits trucs dans le ventre. Là. Elle doit s'inquiéter. Donc moi, je lui souhaite à ce 20h-là de prendre du plaisir.
Du plaisir sur un énorme plateau de 300 mètres carrés. Donc, c'était Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions, micro de Laurent Marsic.
Et puis, direction Olivia, la gare d'Arras, dans le Pas-de-Calais. Pour finir, là où Clint Eastwood et son équipe ont un tournage très spécial aujourd'hui.
Un tournage pour le film Hommage aux héros du Tali. Ce sont ces trois Américains qui avaient réussi à empêcher un attentat dans le train Amsterdam-Paris le 21 août 2015. Le train de 15h17 pour Paris. C'est le titre du film. Le commandant de police, Olivier Jugelot, consultant sur le film, était intervenu sur le Thalys il y a 2 ans. C'est un document RTL.
Si un jour on m'avait dit dans ma carrière que j'allais expliquer à Clint Eastwood ce que j'avais fait un vendredi soir à Arras, probablement que je ne l'aurais pas cru. J'essaierai de leur expliquer comment on est intervenu, puisqu'ils veulent vraiment coller à la réalité de ce qui s'est passé ce jour-là. Les films qu'il a scénarisés sont quand même des remarquables films, donc je ne suis pas inquiet sur ce qui va en sortir. Bon, Clint Eastwood, ça reste quand même le must.
Un document RTL au micro de Sinamir, Olivier Gugelot, commandant de police, qui était donc intervenu sur le Thalys le 21 août 2015. Tournage du film Le train de 15h17 pour Paris, toute la journée à Arras.
Et un autre géant du cinéma est au travail, Martin Scorsese, is back. Il a débuté le tournage de The Irishman à New York. Au menu, Al Pacino et De Niro, entre autres. Film attendu sur Netflix en 2018. Un peu de patience.
Merci Olivia Leray. On revient à la musique avec Steven Bellery. L'autre nouveauté du jour, nous vous l'avons dit, c'est le tout premier extrait du prochain album d'Étienne Dao.
4 ans après le splendide Les chansons de l'innocence retrouvée, Étienne Dao publiera Blitz, son 11e disque mi-novembre. Le premier single s'intitule Les flocons de l'été. Étienne Dao nous le présente.
Alors c'est une chanson qui est un petit peu différente du reste de l'album. Elle est un peu singulière, comme pouvait être Heure Hindoue dans un album qui s'appelle Vie Martienne, qui clôturait l'album. Là, elle est au milieu du disque parce qu'elle est vraiment à la fois aérienne et à la fois très tendue, très mélodique. Je l'ai composée comme ça, vraiment d'une manière très fluide, elle est venue d'une manière très évidente. J'ai déjà fait tellement de chansons, se surprendre soi-même, c'est déjà énorme. Non, c'est un album de résistance, en fait. Blitz, c'est un mot qui veut dire éclair, la guerre éclair. Donc il y avait cette sensation et l'idée autour duquel tourne cet album, c'est nous danserons et nous chanterons face au danger, nous resterons légers face au danger, nous resterons dressés face au danger.
Tout est blanc, tout givré, innocent, tout figé, c'est l'hiver, en été.
Fusion lente, hein, faut l'écouter plusieurs fois. Plusieurs muses traverseront ce disque, notamment Syd Barrett, membre de Pink Floyd. Étienne Dao m'a promis des titres beaucoup plus électriques, inspirés par les années 60 et le rock psyché. Cet album marquera aussi ses retrouvailles avec Fabien Waltman, artisan de l'album Eden en 96.
Alors on se souvient qu'Étienne Dao avait publié en 2010 une mise en musique du Condamné à mort de Jean Genet, enregistrée avec Jeanne Moreau. Quel souvenir garde-t-il de la comédienne, Steven ?
Ah, c'est pour Étienne Dao l'une des plus belles rencontres de sa vie.
Elle est toujours là, mais en fait, elle me disait qu'elle était immortelle, et je la crois. C'est une chance, elle est enterrée à Montmartre, cimetière Montmartre, donc j'ai un œil sur elle, parce que c'est juste à côté de chez moi. On a eu un lien très très fort, c'est devenu comme une famille d'esprit, quoi. Oui, parce que j'ai beaucoup appris à son contact. Ça m'a rassuré sur le fait qu'à son âge, qu'elle soit si jeune, qu'elle soit amoureuse de son art, de sa vie, amoureuse tout court, ça m'a bouleversé comme ça de voir à quel point elle était comme une jeune fille impétueuse.
Ce projet était tellement audacieux, en plus.
Oui, on avait l'impression de voir un drapeau comme ça, parce que c'était un peu couillu quand même. Il y avait des gens qui quittaient la salle, qui étaient un peu choqués. On adorait la sensation de faire un projet un peu punk, quoi.
Tout est blanc, tout givré.
J'aime bien cette expression, un projet un peu punk.
Punk, évidemment. Les flocons de l'été, la nouvelle chanson d'Étienne Dao sera sur son album Blitz, à paraître mi-novembre. On se moque pas de l'accent breton, s'il vous plaît.
Côté un peu punk. Allez, on se retrouve dans un instant pour se dire au revoir et accueillir Julien Courbet. Passez une belle journée à l'écoute d'RTL.
RTL 9h27.
RTL. Première radio de France.
On a passé un excellent moment, pour ne pas dire une excellente semaine. On se retrouve lundi avec Laurent Voulzy, qui sera notre invité à partir de 9h. Il nous présentera son nouvel album, un bel M, dédié à la musique brésilienne. Et puis notez surtout ce nouveau rendez-vous pour RTL. On se laisse désormais tenter le week-end, puisque chaque dimanche de 13h à 13h30, Anthony Martin vous proposera de revivre quelques bons moments de la semaine passée, ici même avec toute l'équipe et nos nombreux invités. Ainsi, dimanche, on retrouvera notamment Calogero, Marc Duguin ou encore Nolwenn Leroy. Laissez-vous tenter le week-end, c'est donc le dimanche à 13h. Je suis ravi de vous l'annoncer et je suis surtout heureux de vous dire que Julien Courbet est maintenant avec nous.
Bonjour Yves.
Bonjour Julien.
Et merci de m'avoir prêté Éric Zemmour pour cette émission parce qu'on va faire un petit peu de débat aussi.
Oui.
Vous êtes au courant que Hervé Pouchol, que vous connaissez bien,
bien sûr,
a connu un petit été puisque lui qui est un grand séducteur cette année n'a pu coucher qu'avec 30% des femmes qu'il a rencontrées. Et je voulais savoir ce qu'en pensait Éric Zemmour.
Ah. Il a un problème fondamental de légitimité.
Oui, enfin, Éric, il a quand même couché avec 30% des femmes, c'est quand même pas rien.
Bah, Sarkozy, en 2007, à la même période, était encore, je crois, à 69%.
D'accord, mais là, alors, comparons plutôt avec François Hollande, il est quand même mieux, non ?
Même Hollande était au-dessus de ce qu'il est aujourd'hui.
Oui, alors donc, c'est vraiment un petit été pour Hervé Pouchol, on est bien d'accord.
Hein. Bon, on le soutient, il fera mieux l'an prochain, oui, je n'en doute pas.
Évidemment, c'était une année de transition.
Oui.
Merci. Voilà.
Belle émission.
À bientôt.
Vous écoutez RTL.